Alors que le ministère jordanien des Affaires étrangères a annoncé lundi que le royaume accueillera jeudi une réunion d'urgence d'un comité ministériel arabe pour discuter de la dangereuse escalade israélienne à la mosquée Al-Aqsa et des moyens d'y faire face, le porte-parole de ce ministère a annoncé avoir convoqué lundi le chargé d'affaires de l'ambassade israélienne à Amman pour protester contre les opérations menées par le régime sioniste sur le site de la mosquée Al-Aqsa. Comment peut-on analyser cette situation alors que la Jordanie a normalisé ses relations et signé un traité de paix le 26 octobre 1994? Comment pourrait-on analyser cette réaction?
Alors la raison pour laquelle la Jordanie semble prendre comment dirais-je, l'initiative et mener, si je puis dire, comment dirais-je, l'expression et les mesures diplomatiques à l'encontre du régime d'occupation, c'est très simple. C'est que dans les accords de 1994, il a été entérinée une clause selon laquelle la garde du troisième site le plus sacré en islam, donc la mosquée d'Al-Aqsa, revient à la famille, la dynastie du roi Abdallah, donc le royaume hachémite. Hein. Donc en cela, la Jordanie, lorsque des heurts sont déclarés ou se déclenchent à l'intérieur du lieu saint, et que cela affecte la capacité des fidèles d'aller et venir, et surtout en ce mois de Ramadan, se livrer donc aux prières qui sont appelées à être faites, et que cela se traduit par des violences ou des irruptions des forces de l'ordre israéliennes qui se mettent sans sommation à tabasser les fidèles, alors que ces derniers sont en pleine prière, à les évacuer de force, à tabasser les civils, les femmes, les enfants, les personnes âgées, dans une démonstration disproportionnée de force, afin, et ça c'est important de le souligner, de permettre ensuite aux extrémistes religieux juifs de venir et de célébrer leur fête du Pourim, dont on rappellera aux auditeurs que c'est la célébration du massacre, ou en tout cas d'un conflit sanglant entre les anciens Israélites, les anciens Hébreux et les Perses d'antan. Vous voyez la signification. Et en cela, c'est tout à fait dans le cadre des compétences du gouvernement jordanien, plus précisément donc le ministre des Affaires étrangères. Mais vous pouvez être certain que le roi de Jordanie suit la situation de très très près. Rappelons encore une fois à nos auditeurs que on peut dire que 80 à 90% des habitants de Jordanie, un pays de 3 millions d'habitants, ce sont des Palestiniens. Hein, il ne faut jamais l'oublier, ça. Que l'épouse du roi actuel est une Palestinienne d'origine. Et qu'en cela, bien sûr, c'est une situation extrêmement délicate à gérer. Le problème maintenant, c'est que ce n'est pas la première fois que ces événements se produisent. Ils ont même plutôt tendance à être récurrents. Et on assiste un petit peu toujours au même jeu de pantomime, vous voyez ce que je veux dire. Et donc sur la durée, ce que cela peut engendrer politiquement au sein de la rue musulmane, et non pas de la rue arabe, mais de la rue musulmane au sens large, c'est d'exposer ou de remettre en cause la capacité pour la dynastie des Hachémites de s'acquitter de leurs responsabilités en tant que gardien du troisième lieu saint. Vous voyez? C'est ça, à mon avis, qu'il faut garder à l'esprit. Et lorsque l'on sait qu'il y a des dirigeants arabes dans la région qui ont des velléités de vouloir transférer la garde de Al-Aqsa de la dynastie Hachémite à la dynastie des Saouds, On peut effectivement se poser des questions sur les ramifications dans ce contexte-là et en quoi cela peut jouer dans l'évolution d'un dossier qui verrait effectivement le lieu en question transféré à Riyad et ce faisant à la faveur d'une normalisation entre Riyad et Tel Aviv, on verrait une aggravation et une surenchère de provocations de telles qu'on a pu les voir encore une fois ces derniers jours, puisqu'on sait qu'à Riyad, en tout cas sous la direction actuelle, il semble clairement établi que la cause palestinienne a été, si elle n'a pas été abandonnée encore officiellement, et c'est certainement d'ailleurs l'obstacle qui réside à une normalisation de fait. Au niveau de la direction, ce n'est plus la priorité des priorités, hein, ça c'est clair. Donc, je pense qu'il faut, dans ce contexte-là, qu'il faut analyser la situation, tout en soulignant bien sûr que, alors même qu'on nous bassine avec l'Ukraine tous les jours, avec des formations du réel, enfin, une espèce de campagne d'hystérie russophobe. On apprenait encore hier que les joueurs de tennis professionnels russes ne pourraient pas participer, russes et biélorusses, ne pourraient pas participer au tournoi de Wimbledon. On ne peut que s'étonner de voir encore une fois le deux poids, deux mesures. Hein, ça, c'est clair. C'est-à-dire que quand il s'agit de l'Ukraine, là, la soi-disant communauté internationale et les institutions qui lui sont inféodées poussent des cris d'orfraie. Mais quand il s'agit des exactions du régime d'apartheid sur une population civile qui ne demande juste qu'à pratiquer son culte, là, c'est silence radio.